Chapitre 27. Le souffle des stations. Il les conduisit dans des avenues bordées de pentes rouillées de carcasses de véhicules, de grues de démolition et de tournoirs de hauts fourneaux. Dès leur entrée dans l'étendue, par son côté occidental, il privilégia les petites rues et finit par engager l'aéroglisseur dans un canyon de briques, ses flancs blindés projetant des étincelles avant de foncer à toute allure dans un mur de déchets compacté d'où s'échappa de la suie. Une avalanche de détritus manqua de recouvrir le véhicule et il lâcha les commandes en regardant les dés de mousse se balancer d'un côté à l'autre. La jauge de kérosène indiquait la réserve depuis 12 pâtés de maison.
« Que s'est-il passé là-bas »
dit-elle, les pommettes vertes dans la lueur du tableau de bord. « J'ai descendu un hélicoptère, sans vraiment faire exprès. Nous avons eu de la chance. »
« Non, je parlais d'après. J'étais... J'ai fait un rêve. »
« De quel genre ?»«
De gros trucs qui se déplaçaient. »
« Tu as eu une sorte de crise. »
« Je suis malade ? Vous croyez que je suis malade ? Pourquoi l'entreprise veut-elle me tuer ?»«
Je ne pense pas que tu sois malade. » Elle détacha son harnais et passa par-dessus le siège pour ramper là où ils avaient dormi.
« C'était un mauvais rêve. »
Elle se mit à trembler. Il défit son harnais, la rejoignit, prit sa tête contre lui et lui caressa les cheveux, les plaquant contre le joli crâne derrière les oreilles. Dans la lueur verte, son visage semblait avoir été tiré d'un rêve, puis abandonné. La chair lisse et mince sur les os. La fermeture éclair du sweatshirt noir à moitié ouverte, il suivit du bout du doigt le trait fragile de sa clavicule. Elle avait la peau fraîche, recouverte d'une pellicule de sueur. Elle s'accrocha à lui. Il ferma les yeux et se vit nu sur un lit strié par les rayons du soleil, sous un lent ventilateur aux pales de bois brun. Son corps qui faisait des va-et-vient, s'agitant comme un membre amputé, la tête d'Allison rejetée en arrière, la bouche ouverte, les lèvres crispées. Angie enfonça son visage dans le creux de son cou. Elle gémit, se raidit et se balança. « Mercenaire !» dit la voix. Et il s'adossa contre le siège du conducteur, le canon du Smith & Wesson reflétant un trait de lumière verte du tableau de bord, le laser de son viseur éclipsant la pupille gauche d'Angie. « Non !» dit la voix. Il baissa l'arme.
« Tu es revenu ?»«
Non, c'est Legba qui t'a parlé. Je suis samedi. »
« Comme le jour de la semaine ?»«
Baron samedi, mercenaire. Tu m'as déjà rencontré sur le flanc d'une colline. Tu étais couvert de sang comme de la rosée. J'ai bu directement à ton cœur ce jour-là. » Le corps de la jeune fille fut pris d'un violent spasme. « Tu connais bien cette ville ?»«
Oui. »
Il regarda les muscles se contracter et se détendre sur son visage pour modeler ses traits en un nouveau masque. « Très bien. Laisse le véhicule ici comme tu comptais le faire, mais suis les stations vers le nord, jusqu'à New York, ce soir. Je te guiderai, alors. » avec la monture de Legba, et tu tueras pour moi. Tuer qui ? Celui que tu rêves le plus de tuer, mercenaire. »
Angie poussa un râle, frissonna et se mit à pleurer.
« Ça va, » la consola-t-il. « Nous sommes presque rentrés à la maison. »
Il l'aida à sortir de son siège en songeant que c'était idiot. Aucun d'eux n'avait de foyer. Il trouva la boîte de cartouches dans le parka et remplaça celle qu'il avait utilisée sur le Honda. Il tomba sur un couteau de poche maculé de peinture dans la boîte à outils de secours et coupa la doublure de ripstop du parka, 1 million de microtubes de polyisolant s'échappant en tournoyant après la lame. Lorsqu'il l'eut arraché, il rangea le Smith & Wesson dans le holster et remit le vêtement. Plusieurs pans tombaient autour de lui, comme un imperméable trop grand qui masquait la bosse formée par la grosse arme.
« Pourquoi vous avez fait ça ?» demanda-t-elle en se passant le revers de la main sur la bouche.
« Parce qu'il fait chaud dehors et que je dois cacher le flingue. »
Il rangea le sac congélation rempli de nouveaux yens dans une poche.
« Allez, » dit-il, « on va prendre le métro. »
La condensation s'égouttait de façon régulière du vieux dôme de Georgetown, construit 40 ans après que les fédéraux en souffrance eurent décampé vers le bas de McLean,
Washington était une ville du Sud, l'avait toujours été. Et l'on sentait, lorsque l'on arrivait en métro depuis Boston, que l'étendue changeait à partir de là. Les arbres du district de Columbia étaient verts, luxuriants. Et leurs feuilles abritaient Turner et Mitchell des lampes à arc, tandis qu'ils marchaient sur les trottoirs brisés vers Dupont Circle et la station de métro. Il y avait des bidons sur la place et des déchets embrasés dans l'immense coupe de marbre au centre. Des silhouettes silencieuses, assises près de couvertures, y avaient disposé des assortiments surréalistes de marchandises, des pochettes cartonnées gonflées par l'humidité, de disques audio en plastique noir près de prothèses de membres abîmées d'où sortaient des prises neurales, un aquarium poussiéreux rempli de plaques d'identité militaire oblongues en acier, des piles de cartes postales fanées retenues par des élastiques, des trods indés encore dans l'emballage du grossiste, des ensembles salières et poivrières en céramique dépareillée, un club de golf aux manches de cuir qui pelait, des couteaux suisses sans lame, une corbeille en papier ébréché décorée du portrait en lithographie d'un président dont Turner se rappelait presque le nom, Carter, Grosvenor, des hologrammes flous du Washington Monument. Dans l'ombre, près de l'entrée de la station, Turner marchanda doucement avec un jeune Chinois en jean blanc, échangeant le plus petit billet de Rudy contre 9 jetons en alliage, portant le logo des transports de Lamba. 2 des jetons leur donnèrent accès à la station. 3 autres finirent dans des distributeurs automatiques en échange de mauvais café et de pâtisseries rassis. Les 4 derniers les emmenèrent vers le nord, le train fonçant en silence sur son coussin magnétique. Turner s'assit, les bras autour d'elle, et fit semblant de fermer les paupières. Il regarda leur reflet dans la fenêtre d'en face. Un homme de grande taille, désormais émacié et mal rasé, voûté et abattu, avec une fille aux yeux caves recroquevillée contre lui. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la ruelle où il avait laissé l'aéroglisseur. Pour la 2e fois en 1 heure, il envisagea d'appeler son agent. Les règles voulaient qu'il soit la personne en qui il aurait dû avoir le plus confiance. Mais Conroy avait prétendu avoir embauché Hockey et les autres par son intermédiaire et ce lien laissait Turner dubitatif. Où se trouvait Conroy ce soir? Turner était quasi persuadé que c'était lui qui avait ordonné à Hockey de les poursuivre avec le laser. Osaka avait-il envoyé le canon électrique en Arizona pour effacer les traces d'une tentative d'évasion ratée? Mais dans ce cas, pourquoi donner l'ordre à Weber de tuer les médecins, leurs neurochirurgiens et l'interface de Maas Neotech? Et Maas revenait sur le tapis. Avait-il tué Mitchell? Avait-il une raison de croire que Mitchell était réellement mort? Oui, se dit-il, tandis que la fille remuait près de lui dans son sommeil agité. Oui, bien sûr, Angie! Mitchell craignait qu'il la tue. Et il avait préparé son évasion pour qu'elle s'échappe, qu'elle rejoigne Osaka sans jamais envisager de partir lui-même. Telle était la version d'Angie, en tout cas. Il ferma les yeux, fit disparaître les reflets. Quelque chose remonta à la surface depuis les profondeurs des souvenirs enregistrés de Mitchell. De la honte. Il ne parvenait pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Il ouvrit brusquement les yeux. Qu'avait-elle dit chez Rudy? Que son père lui avait foutu ce truc dans la tête parce qu'elle n'était pas assez intelligente? En s'efforçant de ne pas la déranger, il extirpa le bras de derrière sa nuque et glissa 2 doigts dans la poche de son pantalon d'où il sortit la petite enveloppe de nylon noir sur son collier de corde. Il défit le velcro et la secoua pour en faire tomber le biologiciel gris et asymétrique sur sa paume ouverte. Rêve de machine. Montagne russe. Trop rapide, trop étranger pour être appréhendé. Mais si l'on voulait quelque chose de précis, on devait pouvoir l'y trouver. Il décrocha le couvercle de la prise avec l'ongle du pouce et le posa sur le siège en plastique près de lui. La rame était presque vide et aucun des autres passagers ne paraissait lui prêter la moindre attention. Il inspira profondément, serra les dents et inséra le biologiciel. 20 secondes plus tard, il avait ce qu'il était venu chercher. L'étrangeté ne l'avait pas touché cette fois. Et il se dit que c'était parce qu'il venait spécifiquement pour ça, pour cette information, le genre de données précises que l'on s'attend à trouver dans le dossier d'un ponte de la recherche. Le QI de sa fille, déterminé par une batterie annuelle de tests. Angela Mitchell était bien au-dessus de la normale. Elle l'avait toujours été. Il retira le biologiciel de sa prise et le fit tourner d'un air absent entre le pouce et l'index. La honte. Mitchell et la honte et la fac. Les notes, songea-t-il. Il me faut les notes de cet enfoiré. Il me faut son dossier de scolarité. Il rebrancha les archives. Rien. Il l'avait trouvé, mais il n'y avait rien. Non. Encore. Encore. Putain, dit-il en le voyant. Un adolescent au crâne rasé lui jeta un coup d'œil depuis un siège de l'autre côté du couloir, puis se concentra de nouveau sur le monologue de son ami. Ils refont les jeux au sommet de la colline à minuit. On y va, mais juste pour voir, pas pour participer. Genre se détendre et les laisser se taper dessus. Histoire de se marrer à Maté qui va en prendre plein la gueule, parce que la semaine dernière, Suzanne s'est fait péter le bras, t'étais pas là ? Non mais, le délire ! Parce que Cal a essayé de les emmener à l'hôpital, mais il était défoncé, il s'est fait viander avec sa Yamaha pourrie sur un dos d'âne. Turner brancha de nouveau le biologiciel dans sa prise. Cette fois, lorsqu'il eut fini, il ne dit rien du tout. Il repassa le bras autour d'Engie et eut un sourire qu'il vit dans la fenêtre. C'était un rictus sauvage, qui flirtait avec les limites. Le dossier scolaire de Mitchell était bon, très bon, excellent. Mais on n'y décelait pas la courbe. Turner avait appris à la chercher dans les archives concernant les scientifiques. Cette arche qui marquait le génie. Il était capable de la repérer de la même façon qu'un bon opérateur identifiait les métaux,
en observant les étincelles qui jaillissaient d'une meule.
Et il ne la voyait pas chez Mitchell. La honte. Les dortoirs de la fac. Mitchell savait forcément qu'il n'y arriverait pas, puis, d'une manière ou d'une autre, il l'avait fait. Comment ? Ce ne serait pas dans les dossiers. Mitchell était capable de modifier ce qu'il avait fourni à la machine de sécurité de Maas, sans quoi il s'en serait douté. Quelqu'un, quelque chose, avait trouvé Mitchell qui végétait à la fac et avait commencé à lui donner des choses, des indices, des orientations. Et Mitchell était monté au sommet dans une courbe indéniable et parfaite qui l'avait conduit jusqu'en haut. Qui ? Quoi ? Il observa le visage d'Engie qui dormait dans le tremblement de la lumière du métro. Faust. Mitchell avait passé un accord. Turner ne connaîtrait peut-être jamais les détails de ce marché, ni le prix payé par Mitchell, mais il croyait en avoir compris la contrepartie. Ce que Mitchell avait dû faire en échange. Legba, samedi, de la salive qui coulait des lèvres déformées de la fille, et la rame s'engagea vers Union dans un souffle noir d'air nocturne.
« Un taxi, monsieur ?»
Les yeux de l'homme bougeaient sous des lunettes à la teinte polychrome, oscillant comme une tache d'huile. Il avait des plaies plates et argentées sur le revers des mains. Turner s'approcha et lui saisit l'avant-bras sans ralentir, le poussant contre un mur de carreaux blancs ébréchés entre des rangées grises de casiers à bagages. « J'ai du liquide, » dit Turner. « Des nouveaux yens. Je veux mon taxi. Sans problème avec le chauffeur. Compris ? Tu ne m'arnaqueras pas. » Il raffermit sa prise. « Si tu essaies de me niquer, je reviendrai te tuer ou te faire regretter de ne pas l'avoir fait. »«
D'accord, monsieur. Compris. » C'est possible, oui. Où voulez-vous aller, monsieur ?
La douleur déforma les traits décharnés de l'homme.
Mercenaire,
dit la voix depuis Engie, chuchotement rauque. Puis une adresse. Turner vit les yeux racoleurs la fixer derrière le tourbillon de couleurs.
C'est Madison, murmura-t-il. Oui, monsieur, je vais vous trouver un super taxi.
C'est quoi cet endroit ?
Demanda Turner au chauffeur en se penchant pour appuyer du pouce sur le bouton parler près de la grille d'acier de l'enceinte.
« L'adresse qu'on vous a donnée ?»
Un crépitement de parasite s'éleva.
« L'hyperbazar.
Il n'y a pas grand-chose d'ouvert là-bas à cette heure de la soirée. Vous cherchez quelque chose en particulier ?»«
Non, »
répondit Turner. Il ne connaissait pas l'endroit. Il tenta de se rappeler cette partie de Madison, essentiellement résidentielle. D'innombrables habitations taillées dans des immeubles commerciaux abandonnés depuis l'époque où la vente exigeait de ses employés qu'ils soient présents physiquement en un lieu central. Certains des bâtiments étaient assez grands pour percer un dôme.
« Où va-t-on ? »
demanda Engie, une main sur le bras de Turner. « C'est bon, » répondit-il, « ne t'en fais pas. »
Bon sang !
Dit-elle en s'appuyant contre son épaule, les yeux levés vers l'enseigne au néon rose Hyper Bazar, qui barrait la façade de granit du vieux bâtiment.
Je rêvais de New York à la Mesa. J'avais un programme graphique qui me faisait visiter toutes les rues, les musées et tout ça. Venir ici était un de mes désirs les plus chers.
Bah, tu as réussi. Tu y es.
Elle se mit à pleurer, le serra, son visage contre le torse nu de Turner, tremblante. J'ai peur. J'ai tellement peur.
Tout ira bien, dit-il en lui caressant les cheveux, les yeux sur l'entrée principale. Rien ne lui indiquait que tout irait bien. Elle paraissait ignorer que les mots qui les avaient conduits ici sortaient de sa bouche. En même temps, songea-t-il, elle ne les avait pas formulés. Il y avait des SDF rassemblés de chaque côté de l'entrée de l'hyperbazar, monticules de guenilles étalées et ayant pris la teinte exacte du trottoir, comme lentement extirpés du béton sombre pour devenir des extensions mobiles de la ville.
« Chambers !»
dit la voix étouffée par son torse, provoquant chez lui un froid dégoût.
« Une boîte, trouve la monture de Tambala !»
Puis elle se remit à pleurer. Il lui prit la main et ils passèrent devant les dormeurs éphémères, sous le montant de l'entrée à la dorure ternie, puis pénétrèrent dans le bâtiment par les portes de verre. Il vit une cafetière à expresso, au bout d'une rangée de tentes et d'étals fermés, une fille avec une crête noire qui frottait un comptoir. « Du café, dit-il, de la nourriture. Viens, il faut que tu manges. » Il sourit à la fille pendant qu'Enji s'installait sur un tabouret. « Le liquide, dit-il. Vous le prenez ? » Elle le regarda et haussa les épaules. Il sortit un billet de 20 du sac congélation de Rudy et lui montra.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»«
Des cafés à manger. » »«
Vous n'avez que ça ?
Pas plus petit ?» Il secoua la tête.
« Désolé, j'ai pas la monnaie. »
« Pas de problème. »«
Vous êtes dingue ?»«
Non, mais je veux du café. »«
C'est un sacré pourboire, monsieur. Je gagne pas ça en une semaine. »«
Prenez-le. » Elle parut s'énerver.
« Vous êtes avec ces connards, là-haut ? Gardez votre thune. Je ferme. »«
Nous ne sommes avec personne, » dit-il en se penchant légèrement sur le comptoir, de sorte que le parka s'ouvre et dévoile le Smith & Wesson.
« Nous cherchons une boîte, du nom de Jemmers. »
La fille jeta un coup d'œil à Angie, puis revint à Turner.
Elle est malade,
défoncée.
Il se passe quoi, là ?
Voici l'argent, annonça Turner. Donnez-nous notre café.
Vous voulez mériter la monnaie ? Dites-moi où trouver Jemmers.
Ça vaut bien cette somme pour moi. Vous comprenez ? Elle fit disparaître le billet usagé et s'approcha de la cafetière.
Je crois que je ne comprends plus rien à rien.
Elle écarta des tasses et des verres enduits d'une pellicule de lait.
« Vous lui voulez quoi, Jammer ? Vous êtes un pote à lui ?
Vous connaissez Jackie ?
Bien sûr,
dit Turner.
Elle est arrivée tôt ce matin avec ce petit Wilson de la banlieue.
Ils ont dû monter.
Où ça ?
Au Jammers ?
Puis, ça s'est mis à déconner.
Ah bon ? Tous ces débiles de baritone, des basanés et des bourges qui ont débarqué comme s'ils étaient chez eux.
Ce qui est le cas maintenant,
aux deux derniers étages.
Ils ont commencé à soudoyer les vendeurs pour qu'ils dégagent. Pas mal d'autres aux étages inférieurs se sont tirés d'eux-mêmes. Trop bizarre.
Combien ont débarqué ? La machine éjecta un filet de vapeur avec un sifflement.
Peut-être une centaine ? J'ai eu les jetons toute la journée, mais je n'arrive pas à joindre mon patron. Je ferme dans une demi-heure de toute façon. Celle qui fait la journée n'est pas venue, ou alors, si elle s'est pointée, elle a senti les embrouilles et s'est tirée.
Elle prit une petite tasse fumante et la posa devant Angie.
« Ça va, petite ?»
Angie hocha la tête.
« Vous n'avez aucune idée de ce qu'il mijote ?»
demanda Turner. La fille était retournée devant la machine qui sifflait de nouveau.
« Je crois qu'ils attendent quelqu'un, » dit-elle doucement en apportant à Turner son expresso.
« Que quelqu'un sorte de chez Jammer ou que quelqu'un tente d'y entrer. »
Turner baissa les yeux sur les tourbillons de mousse brune dans son café.
« Et personne n'a appelé la police ?»«
La police ? Allons, c'est l'hyperbazar ici, on n'appelle pas la police. »
La tasse d'Angie se brisa sur le comptoir de marbre.
« Sans détour, mercenaire !» chuchota la voix. « Tu connais le chemin. Vas-y !»
La serveuse resta bouche bée.
« Bon sang !»
dit-elle. Elle doit être sacrément défoncée. Elle jeta un regard noir à Turner. C'est vous qui lui avez refilé ça ?
Non, répondit-il, mais elle est malade. Ça va aller.
Il but le café noir et amer. Il lui sembla pendant une seconde qu'il sentait toute l'étendue respirer, un souffle ancien, malsain et épuisé, qui montait et descendait le long des stations de Boston à Atlanta.